Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 26 mai, l'Assemblée nationale vote une résolution en faveur de la création d'un statut pour les enfants des soignants décédés de la Covid-19. Ils deviendraient alors l'équivalent de pupilles de la nation et pourraient donc bénéficier d'aides au moins jusqu'à leur indépendance financière. Le gouvernement s'est engagé à faire des propositions, mais dans les faits, ce statut tarde à venir. Laure Baumal, maman de deux enfants et veuve depuis le mois d'avril, a accepté de recevoir Claudia Prolongeau pour Code Source.
Je retrouve Laure chez elle, dans un appartement donnant sur une rue calme du 14e arrondissement de Paris. Elle a emménagé ici il y a seulement quelques mois, dans ce logement qui fait partie du parc de la PHP où elle travaille en tant qu'aide-soignante.
Oui, bonjour, c'est Claudia Prolongeau. Je vous remercie, c'est à quel étage ?
Elle a 34 ans et deux enfants. Baptiste, 11 ans, et Axel, 4 ans.
Maman de Baptiste et Axel, que j'ai eu avec mon mari Olivier Lugan. Il a, lui, de son côté, Thomas et François-Xavier, qui ont 24 ans et 30 ans. On était une famille recomposée, on vient de Vendée, on était au Sable d'Olonne pendant 10 ans. Et on est arrivé en août l'année dernière, où mon mari donc, est infirmier libéral, et donc s'est installé sur Boulogne-Billancourt, où il avait son cabinet. Et il était aussi donc infirmier de sapeurs-pompiers dans les Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. Moi, je suis aide-soignante. Et donc, on avait décidé, voilà, effectivement, au bout de 10 ans, de revenir sur Paris. Voilà, reconstruire une nouvelle aventure qui s'est traduite par ce virus.
En arrivant à Paris, Laure et Olivier s'installent avec leurs enfants dans le 15e arrondissement. Leur travail de nuit à l'hôpital et Olivier de jour dans son cabinet d'infirmier. Quand le coronavirus arrive en France, ils comprennent tout de suite que la période va être difficile pour eux.
Des fois, effectivement, on manquait de matériel, notamment mon mari qui, en libéral, lui, n'en avait pas du tout. Ces journées, ça commençait le matin, donc vers 8h, avec la visite des patients, donc avec des soins, des pansements, des injections, avec des patients diabétiques, avec des patients cancéreux, avec des chimiothérapies. Voilà, donc il arrêtait ses tournées vers 14h pour les reprendre vers 17h jusqu'à 20h, 20h30 le soir.
Une fois, j'ai dû y aller avec papa. J'attendais papa qui finisse. Et même deux fois, je l'ai fait.
Puis souvent, t'avais le droit à un petit gâteau, un verre de jus, un bonbon.
Vous vous étiez rencontrés dans le cadre du travail ?
Oui, au bloc opératoire de nuit. Moi, j'étais déjà en poste. Ça faisait un an que j'étais diplômée. Je travaillais surtout en salle de réveil. Et c'était mon binôme, en fait. Donc, on travaillait ensemble tous les jours, du lundi au vendredi. Les choses ont fait qu'on s'appréciait de plus en plus. Mais je peux vous dire qu'il a ramé avant que je dise quand même oui. Hein.
C'est parce qu'il y avait déjà deux enfants, ça vous fait peur ?
Je vais vous faire rire. J'avais toujours dit, à lui notamment, je lui avais dit, alors moi, je veux pas d'homme marié. pas d'enfant d'une précédente union et pas plus vieux que moi. Alors, vous voyez, et en fait, j'ai coché toutes les cases.
C'est comme ça qu'Olivier et Laure, malgré leurs 23 ans d'écart, commencent leur vie commune.
Quelle heure il est ?
8, 13 ans et deux enfants plus tard, ils mènent une vie extrêmement organisée. Laure, qui travaille de nuit, part vers 20h30, quand Olivier rentre du travail. Le matin, elle revient à 7h, au moment où lui part, juste à temps pour réveiller Axel et l'emmener à l'école. Quand le confinement est décrété, Laure et Olivier font partie des soignants qui, comme on le répétera plus tard, sont envoyés au front.
J'avais le matériel qu'il fallait à l'hôpital, sauf que lui, par contre, n'avait rien en tant que libéral parce que, en fait, il trouvait rien. On a fait les pharmacies, on a fait les magasins spécialisés, donc dans tout ce qui est paramédicaux, et en fait, on ne trouvait plus rien. Il n'y avait plus de gel hydroalcoolique, plus de masques, plus de gants, les surchaussures, les surblouses, tout était plus rien. Les libéraux étaient vraiment lâchés seuls au monde, quoi.
Tant qu'il le peut, Olivier vit sur les maigres réserves qu'il a. Il se déplace chez les patients et prend toutes les précautions possibles, notamment pour les plus fragiles. Les derniers jours où il exerce, il lui reste 3 masques dans sa sacoche. Le 25 mars, Olivier tombe malade.
Il a commencé par une température relativement élevée, où on est à 39-39,5. Et en fait, en 48 heures, il est tombé à 41,8 en température. Donc là, effectivement, il n'était pas bien du tout, avec des gros maux de tête, des énormes courbatures musculaires et osseuses, avec des douleurs abdominales, mais toujours pas d'essoufflement. Et en fait, 48 heures après, effectivement, là, il a commencé dans la nuit à avoir des difficultés respiratoires. Donc là, moi, j'ai appelé le SAMU, enfin les pompiers, le SAMU donc est venu après. Et donc, ils se sont posé la question si ils allaient l'intuber donc à la maison. Finalement, ils lui ont posé juste un masque à haute concentration parce que il voulait lui laisser faire le trajet et faire l'intubation au calme donc à l'hôpital. Donc ils l'ont tout de suite dès son arrivée intubé et sédaté. Et là, on part pour 2 semaines de combat en fait. On a eu des passages où les médecins nous ont dit je ne sais pas s'il va passer la nuit. On se dit c'est pas possible, on est dans un cauchemar. Parce que mon mari n'avait aucune pathologie, pas de détresse respiratoire, pas asthmatique. On ne comprend pas et les médecins nous disent, comme il n'y a pas de pathologie associée, ça va aller. Il a fallu après 48 heures d'hospitalisation en réanimation. Donc on lui a posé une machine qui s'appelle l'ECMO. Au bout d'une petite semaine, on n'avait pas d'amélioration. C'était toujours des hauts et beaucoup de bas. La machine se bouche. Il y a des caillots, donc il faut les anticoaguler, donc leur donner des médicaments pour fluidifier le sang. Sauf que quand on fluidifie trop, après ils font des hémorragies. Il nous a fait une hémorragie. C'est un peu le chat qui se mord la queue parce qu'on soigne d'un côté, mais de l'autre côté, ça dérape. Après, il nous a fait une infection. Après, il a fallu le transfuser. Ils ont tenté les premiers jours la chloroquine. Sauf que nous, ça n'a pas fonctionné. Et donc, quand j'avais discuté avec le réanimateur, il m'a dit de toute façon, les patients qui arrivent en réanimation sont trop graves. Et donc, le protocole est trop tard, en fait. J'étais confiante et je savais qu'effectivement, dans ma tête... On allait passer des durs moments, mais qu'on allait s'en sortir. Et puis, à un moment, le corps lâche. Hein, au bout de 15 jours, se battre comme un fou pour essayer de s'en sortir, on n'y arrive plus, en fait. Et puis, le corps a arrêté de se battre. « Mon mari est rentré donc le vendredi 27 mars et donc il est décédé le samedi 11 avril au matin.
Vous étiez avec lui au moment de son décès ou vous l'avez appris
Non,
après ?
À aucun moment on a pu le voir parce que du coup les visites étaient interdites. J'ai supplié le réanimateur que j'ai eu au téléphone pour pouvoir lui dire au revoir. Malheureusement, le protocole était strict. Ils n'ont pas pu nous laisser rentrer. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand il est parti avec les pompiers et le SAMU de la maison. Et mes enfants l'ont vu, puisqu'ils sont venus vers 5h du matin. Donc ils ont pu, comme ça, lui dire au revoir. Mais à aucun moment, c'était un au revoir pour toujours. C'était un au revoir pour à bientôt. Je lui avais préparé son petit sac avec le nécessaire de toilette, la brosse à dents, le parfum et les chargeurs de téléphone. Enfin, voilà, le nécessaire jusqu'à ce que je puisse aller le voir pour lui porter d'autres affaires. Donc jamais on n'aurait pensé arriver à cette échéance.
Et vous pouviez lui parler un peu ?
Je laissais des messages à l'infirmière donc qui lui transmettait. Mais à aucun moment, effectivement, on a pu lui parler, sauf à un moment, en fait, où des amis qui ont une de leurs voisines, en fait, qui travaillait à Percy, a accepté qu'on laisse un message, en fait, sur son WhatsApp. Et donc, avec mes enfants, on lui a donc laissé un petit mot sur son WhatsApp. Après, je me dis que... il n'y a peut-être pas de hasard, mais vous voyez, ce message, il lui a été donné le vendredi dans la nuit, en fait, vers minuit. Et en fait, il est parti juste après. Donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard, parce que nous, en tant que soignants, on dit toujours que les malades attendent un signe de leurs proches, tout ça. Et du coup, avec mes enfants, on lui a dit qu'on l'aimait très fort. Et qu'on pensait très fort à lui, que c'était un battant, et qu'on l'attendait. Ce message est passé vers minuit, et il est parti à 6h30. Après avoir perdu mon mari, il a fallu qu'on réorganise rapidement notre vie. Parce que nous étions en location donc dans le 15e. Et au niveau du loyer, moi je ne pouvais pas payer un loyer aussi important. Parce que nous avions un loyer de 2 200 €. Et moi mon salaire était de 1 800. Donc il a fallu qu'on déménage rapidement. Donc on a été hébergés par des amis. Ils ont été juste admirables. Après, pareil, on a été énormément aidés par les pompiers, aussi les collègues de mon mari, par la caserne de Saint-Germain. Ils ont géré le déménagement d'une main de maître. Ils nous ont donc conservé nos meubles, parce que nous n'avions toujours pas donc d'appartement quand on est parti. On a trouvé un appartement donc par le biais de mon travail avec la PHP. Toujours les pompiers qui nous ont aidés, effectivement, donc à réemménager, réinstaller les meubles. Je ne sais même pas, effectivement, comment les remercier tellement ils ont été importants pour nous.
Après le décès de son mari, Laure crée un cocon avec ses enfants dans lequel les informations n'ont pas leur place. À la radio comme à la télé, on ne parle que du nombre de morts ou de ceux qui s'en sont sortis. Pour elle, c'est trop dur à entendre. Elle passe à côté du débat qui émerge sur le statut des enfants de soignants morts du coronavirus. À la fin du mois de mai, les députés votent à l'unanimité pour que les enfants de soignants morts du Covid-19 obtiennent le statut de pupille de la nation. Celui-ci garantit un soutien, entre autres financier, de l'État pour les enfants âgés de moins de 21 ans. Et ce sont les proches de Laure qui lui en parlent pour la première fois.
Il y a une prise en charge dans les études, aussi prise en charge dans les recherches de stage. Après, là, plus pour maintenant, ça serait effectivement pour des prises en charge de colonies, pour les vacances. Mes enfants ont toujours été habitués à partir en vacances, à chaque vacances, on partait. Mon fils, depuis 3 ans, part effectivement en colonie. Après, c'est ce qu'on lui a expliqué, c'est que là, du coup, au niveau budget, tout change, en fait. Je dis pas qu'on fera moins de choses, mais on les fera différemment. Et du coup, avec un budget qui sera différent. Parce que ben, on vivait très très bien avant. Bon, on n'est pas non plus à la rue, hein, mais maintenant, on fait plus attention. On va plus comme avant au restaurant. On fait moins de sorties. Voilà, on fait les choses ouais, différemment.
Il gagnait combien, votre mari ?
Il était à 3000 euros par mois.
Depuis ce vote à l'Assemblée, la question est restée en suspens. Et pour Laure, c'est d'autant plus problématique que les difficultés et blocages administratifs se multiplient. Pour la succession, par exemple, les 4 enfants d'Olivier doivent payer chacun 20 000 euros de frais. Si Axel et Baptiste devenaient pupilles de la nation, ils seraient exonérés de ce montant que ni eux ni leur mère ne peuvent payer, et un juge aux affaires familiales serait enfin nommé.
Vos enfants, ils sont au courant de ce statut de pupille ? Vous leur en avez parlé ? Ça les intéresse ?
Alors, ben, ma fille, elle... à 4 ans et demi, entre guillemets, qu'on lui dise que tu sois pupille de l'État ou alors on va faire un tour de manège. Franchement, c'est pas grand-chose. Par contre, mon fils s'y intéresse un peu plus par rapport justement à ses prochaines études, parce que comme il veut faire une école de commerce, du coup, il s'y intéresse un petit peu plus, mais après, voilà.
Symboliquement, pour eux, c'est pas très fort.
Pas plus que ça.
Et pour vous ?
Oui. Parce que pour moi, c'est vraiment une reconnaissance comme quoi mon mari n'est pas décédé pour rien. Et ça, effectivement, c'est important.
Claudia, comment va Laure aujourd'hui ?
Elle va plutôt bien, elle est très bien entourée, elle me l'a répété plusieurs fois. Le fait qu'elle ait déménagé dans le 14e arrondissement a permis que son fils continue à aller dans le même collège, donc ça pour elle, c'était vraiment important parce que comme ils avaient déménagé relativement récemment, c'était compliqué pour lui de changer de collège. Elle n'a pas encore repris le travail en revanche, donc elle est en arrêt depuis l'hospitalisation de son mari. Elle s'est fixée comme cap janvier, elle espère pouvoir reprendre en janvier et d'ici là, voilà, ils essayent de reconstruire une vie de famille à 3 et ils font ça plutôt bien pour le moment, ça se passe plutôt bien.
Toute la famille a été invitée à un hommage aux soignants à Paris. Comment l'ont-ils vécu ?
Oui, alors cet hommage, c'était le 13 juillet. Ils se sont retrouvés avec 800 personnels soignants et familles de personnels soignants morts du Covid au Grand Palais. Ça a été un moment assez important pour eux. Ils ont eu l'impression qu'on écoutait leur détresse, qu'on rendait aussi hommage à son mari et au père de ses enfants. C'était important, c'était une reconnaissance dont ils avaient besoin. Et surtout, ils ont aussi pu rencontrer des familles qui étaient dans le même cas. Et même si Laure est très bien entourée, c'est quand même pas pareil de pouvoir discuter avec des gens qui vivent la même chose. Donc ça lui a fait beaucoup de bien aussi.
Merci Claudia. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.